stop my feet and I can't stop my hands. Well, I hear the sound of a rock and roll band. Gotta rock, gotta roll, gotta jump and shout. Nobody better come and turn me out. Honey in your head.
Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme presque chaque mercredi, de 9h30 à 10h30. Bonjour, et bonjour Sylvie, du groupe d'Ivry, du groupe Libertaire d'Ivry.
Voilà. Salut tout le monde.
Et nous continuons ensemble la lecture de Martin Winkler, du livre de Martin Winkler, Les Brutes en Blanc. La vocation des médecins est de soigner, guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours. Alors pourquoi certains médecins sont-ils maltraitants? Discrimination, jugement de valeur, violence verbale et physique, gestes imposés ou archaïques, ces brutes en blanc enfreignent la déontologie et la loi. Martin Winkler décrit ici les rouages de la maltraitance médicale et les moyens de s'en protéger. Et là, on est donc en train de lire la partie où c'est des exemples. Ce sont des exemples qui sont exposés ici de maltraitance médicale. Surdité, condescendance et impatience. En principe, chaque consultation commence par une écoute. Le patient exprime les motifs de sa venue, le médecin prend des notes, fait préciser, s'assure qu'il a bien compris. Écoutez bien ce que le patient vous dit en entrant, car il vous donne le diagnostic. Cette phrase de William Osler, praticien canadien qui influença toute la médecine anglo-saxonne au début du XXe siècle, certains chercheurs l'ont prise au mot. En 1989, un neurologue britannique publiait dans le British Medical Journal un court article dans lequel il décrivait une expérience personnelle. Lors de 100 consultations successives, il avait laissé le patient parler sans l'interrompre jusqu'à ce qu'il s'arrête spontanément. Pendant ce temps, il écoutait et prenait des notes. 70% d'entre eux s'étaient interrompus spontanément en moins de 2 minutes. Bien entendu, la brièveté et la concision étaient proportionnelles aux capacités de s'exprimer de chacun ou de chacune. L'auteur en concluait qu'on pouvait, sans crainte d'être débordé, écouter les patients sans leur couper la parole. Il se demandait si cela n'était pas encore plus important en médecine générale. 13 ans plus tard, une équipe médicale de l'hôpital de Bâle, en Suisse, reproduisait la même expérience avec plusieurs centaines de patients et 14 médecins différents. Les trois quarts, 78% des patients, avaient parlé moins de 2 minutes. 7 seulement avaient parlé plus de 5 minutes. D'autres recherches, elles se comptent par dizaines, ont donné des résultats similaires et ont également interrogé les patients sur les différences entre les médecins qui les interrompent et ceux qui les laissent parler. C'est simple, quand on les laisse parler, ils sont plus satisfaits en sortant de consultation, et cela quel que soit le problème pour lequel ils sont venus. Conclusion des chercheurs, laisser s'exprimer les patients. Certaines études attirent l'attention sur le sexisme inconscient des médecins qui coupent la parole aux femmes plus souvent qu'aux hommes.
Comme partout ailleurs.
En France, les choses ne sont pas très différentes. Début 2016, deux médecins, Anne Réva-Lévy et Laurence Verneuil, ont publié « Docteur écoutez » chez Albin Michel pour souligner le manque d'attention des médecins français qui consacrent en moyenne 23 secondes à écouter ce que les patients disent avant de les interrompre. Que les médecins généralistes ou de nombreux praticiens hospitaliers aient moins que jamais le temps d'écouter, ce n'est pas douteux. Les uns sont surchargés par la désertification médicale, les autres par les exigences de rentabilité imposées par l'administration hospitalière. Il n'en va pas de même pour les spécialistes de ville qui reçoivent sur rendez-vous, n'ont pas d'urgence à assurer et n'ont de compte à rendre à personne. Ils devraient pouvoir consacrer du temps d'écoute aux patients. En principe, ils sont là pour ça. Le plus souvent, malheureusement, il n'en est rien. Madame D, c'est la première fois qu'elle fait appel à moi, me décrit les symptômes qu'elle ressent. Ils ne ressemblent à rien que je connaisse ou ai déjà vu, mais je note consciencieusement ce qu'elle me dit et je m'interroge tout haut sur les explorations à faire pour identifier ce qui l'a fait souffrir. Je la vois glisser la main dans son sac et en ressortir une feuille pliée en quatre qu'elle me tend en tremblant. C'est un article découpé dans une revue de santé grand public. On y décrit la maladie qu'elle redoute d'avoir. J'ouvre l'article et je lis devant elle. Il ne s'agit pas d'une maladie exotique, mais de la maladie de Lyme, une infection dont on parle peu en France à l'époque.
Qui est transmise par les tiques, généralement.
J'en ai entendu parler pendant mes études et ce que dit l'article semble tout à fait solide. Je lui déclare... Vous avez raison, ça pourrait être ça. Je vais ajouter la sérologie de la maladie de Lyme à la prise de sang. Elle se met à pleurer. Je lui demande pourquoi. Elle me répond. Vous êtes le premier qui me dit ça. Les autres médecins se sont moqués de moi. Je n'avais pas le sentiment d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Elle m'avait apporté quelque chose à lire. J'étais intrigué. J'avais lu en me disant que c'était une information de plus. Et que puisque c'était important pour elle, il fallait que j'en tienne compte. Mais ce n'est pas ce qu'on enseigne dans les facultés de médecine. Pendant longtemps, et c'est encore vrai aujourd'hui, les médecins ont été formés non pas à écouter, mais à interpréter ce que les patients leur apportent, à transformer les symptômes, ce que le patient ressent, en signes et en syndromes, les manifestations d'une maladie, et à tout faire rentrer dans des cases diagnostiques. On leur a longtemps enseigné que ce que le patient raconte n'a d'intérêt que si cela correspond à l'idée que le médecin a en tête. À ce refus d'écoute peut s'ajouter une attitude franchement hautaine. Les réactions des trois autres médecins que cette femme avait vus en sont l'illustration. Le premier avait grommelé « Ne venez pas m'emmerder avec ces conneries ». Le deuxième avait à peine regardé l'article et le lui avait rendu sans un mot. Le troisième avait souri de manière assez méprisante et dit « Vous ne devriez pas lire des choses que vous ne comprenez pas. Beaucoup de patients sont ainsi confrontés à la condescendance, voire au mépris des praticiens à qui ils se confient. tout se passe comme si ce que le patient avait à dire était, par définition, nul et non avenu. Il est d'ailleurs assez caractéristique que, dans les pays anglo-saxons, le recueil des informations par le médecin soit désigné sous les termes de « patient history », récit du patient. En France, on parle d'interrogatoire et d'histoire de la maladie. On ne saurait mieux dire qui dirige l'entretien et dans quel but. De la méfiance à l'interrogatoire inquisiteur. Non content de balayer d'un revers de main les informations qu'on leur apporte, beaucoup de médecins pressent les patients avec une certaine impatience d'en venir aux faits. Plus grave encore, un grand nombre semble penser que ce que dit le patient est suspect et s'en méfie comme de la peste. L'une des phrases que j'ai le plus entendue pendant mes études, mais aussi plus tard, est « Faut surtout pas croire tout ce que les gens te racontent ». À l'entendre, quand la parole du patient n'est pas un bavardage intempestif, c'est un tissu de mensonge. Cette méfiance peut devenir caricaturale quand elle reflète les inquiétudes propres du médecin. À la fin des années 70, j'étais en stage chez un généraliste du sud de la Sarthe. Un matin, une femme entre dans le cabinet et, utilisant une expression courante de la région, elle déclare « J'ai pas vu mes règles depuis 2 mois. » Du tac au tac, le médecin répond « Vous le gardez ou non ?» Ébahi, la femme ouvre de grands yeux. Elle est venue pour déclarer une grossesse désirée, pas pour demander une IVG. Le médecin, lui, avait sauté aux conclusions qu'il redoutait le plus. Afficher ainsi ses préjugés était à la fois indélicat et rédhibitoire. Si cette femme avait un jour besoin d'une interruption de grossesse, elle n'aurait probablement pas envie de faire appel à lui ou de le recommander.
J'ai quand même aussi une remarque, je ne sais pas, peut-être il en parle après, qui est un peu cynique, on en a déjà parlé des fois précédentes à propos du même livre d'ailleurs, c'est qu'il y a une raison pour laquelle ils veulent ni écouter ni parler d'ailleurs à leurs clients, c'est que ils veulent en faire un maximum. Et moi je sais que c'est par exemple mon médecin traitant, c'est comme ça, je te dis vraiment, ça tient quasiment de l'image subliminale quand je vais la consulter, que ce soit pour moi, pour les enfants, pour n'importe qui, c'est très très rapide quoi. Et donc il y a beaucoup de gens aussi qui se plaignent pas seulement qu'on les écoute pas, mais qui voudraient qu'on leur explique quoi, tu vois, que alors que moi par exemple je t'avais dit j'avais un eczéma chronique, il me balançait à chaque fois des corticoïdes. Et c'est pas seulement, enfin je voulais dire, enfin je voulais avoir un dialogue quoi, de dire non mais c'est pas possible parce que ça fait un effet systémique, etc. Corticoïdes dehors, enfin, candidat suivant, quoi, tu vois. Et les gens ont besoin, et même, c'est absolument indispensable. Je t'ai raconté comment une pilule, la Diane 35, en fait, a été responsable d'une grossesse, parce que les pilules provoquent des saignements qui sont pas des règles. Mais même ça, je le savais pas. Mais je viens parce que j'avais des problèmes d'acné. Et je me doutais pas que cette pilule, premièrement, était craignose si jamais, par exemple, tu fumais en même temps. Il s'était pas pris la peine de le dire, tu vois. Il m'avait pas dit non plus qu'elle était en réalité beaucoup moins fiable que les autres pilules. Et qu'elle était, d'ailleurs, elle était interdite parce qu'elle était dangereuse et puis en plus pas efficace. Mais j'aurais bien aimé qu'il m'en parle. Mais il y a des gens, ils ont besoin qu'on leur explique un peu. Qu'est-ce que c'est le traitement? Ça va faire quel effet? Est-ce que ça va... Enfin, ils aimeraient pouvoir avoir qu'on réponde à leurs questions aussi. Parce que malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, t'es pas à égalité de savoir avec le médecin. Il est quand même censé en savoir plus que toi qui lit même des... Enfin, j'étais d'ailleurs journaliste dans un journal de santé, je sais pas si tu le savais, mais...
Ah oui.
Ah, des années, je te jure. Et quand je parlais à d'autres journalistes de journaux de santé, enfin, j'ai aucune formation, hein, je vous rassure, mais on était d'accord que d'ailleurs, c'est vraiment un truc que tu... Par exemple, faut pas faire... J'avais proposé un article pour comment grossir, c'est pas intéressant, il n'y a pas assez de gens que ça intéresse, donc faut faire comment maigrir, et tampon des lignes, alors qu'il n'y a qu'une réponse, elle tient en 2 mots, mangez moins. Donc voilà. Non, mais sinon, c'est ça, c'est que tu te dis, malgré tout, un médecin... il est vraiment censé en savoir plus que toi sur cette histoire de pilule. Il aurait dû me le dire et j'aurais même pas dû devoir lui en parler. Mais il t'expédie Enfin, j'ai remarqué d'ailleurs que quand j'étais à l'hôpital et au ticket modérateur, ils m'expédiaient 1000 fois. Vraiment, mais alors là, franchement, enfin, c'est vraiment stimuli-réponse. Vous avez de l'eczéma corticoïde. Suivant. Mais comme ça. Hein. Alors que quand elle allait voir le même dans son cabinet, il prenait un petit peu plus de temps, même si c'était pas forcément ce que t'aurais attendu. Mais enfin, il y a un aspect financier. Si jamais t'expédies tes clients en leur parlant pas et en les écoutant pas, eh ben, au bout de la journée, t'en as fait plus et donc t'as fait plus de fric. Je suis cynique, hein, mais bon, quand même.
Ça raccourcit le temps de la consultation.
Exactement.
Et tu peux en avoir plus.
Ouais. Exactement. Donc, non seulement tu l'écoutes pas, mais tu lui parles pas non plus. Mm-hmm. Tu t'expédies, vraiment. Et, enfin, c'est évident qu'il y a, enfin, de toute façon, pour l'auteur, là, c'est évident aussi. L'aspect financier, c'est comme pour les inventeurs de maladies, hein. C'est tout à fait crucial. Il faut jamais l'oublier, quand même. Mm-hmm.
Donc nous poursuivons la lecture des Brutes en blanc de Martin Winkler sur Radio Libertaire, émission L'Entonnoir. À l'hôpital, on enseigne aux étudiants, le plus souvent de très jeunes gens, à recueillir un très grand nombre d'informations sur les patients dont ils ont la charge. L'interrogatoire doit être aussi complet que possible, ce qui signifie en particulier de poser parfois des questions intimes sur l'activité sexuelle. Cette tâche est confié aux étudiants sans préparation, sans ménager leur propre sensibilité, leur propre pudeur, et a fortiori sans se préoccuper de l'impact que leurs questions auront sur les patients. Il y a une dizaine d'années, au cours d'un enseignement dirigé, je demande à des résidents quelles questions poser à une adolescente qui vient chercher une contraception. Une jeune femme me lance « On lui demande si elle a des relations sexuelles ?»« Certainement pas. Pourquoi ? C'est une question importante, non ?» La vie sexuelle des gens ne nous regarde pas, sauf s'ils en parlent spontanément ou si c'est médicalement pertinent. Or, dans ce cas précis, ça ne change rien à ta prescription. Ou bien elle en a déjà, ou bien elle a l'intention d'en avoir. Et dans les deux cas, on ne peut que la féliciter de se protéger. En revanche, poser les questions de manière aussi directe peut faire plus de mal que de bien. Et je leur raconte l'histoire suivante. Un jeune médecin fraîchement installé reçoit mademoiselle E, une adolescente de 14 ans, qui, avec beaucoup de difficultés, lui demande la pilule. Le médecin, surpris par le jeune âge de la patiente, lui demande depuis quand elle a des relations sexuelles. La jeune fille se ferme comme une huître et ne dit plus un mot. Le jeune praticien cherche à la faire parler, sans succès. Au bout de quelques minutes, l'adolescente quitte le cabinet sans avoir desserré les dents. Deux mois plus tard, le même jeune médecin se rend au centre d'interruption de grossesse où il assure des vacations. En entrant dans le service, il aperçoit mademoiselle E dans une chambre. Voyant son dossier dans le bureau de la secrétaire, il comprend qu'elle vient de subir une IVG le matin même. Il confie à la conseillère de planification qu'il se sent très coupable de ne pas avoir réussi à lui prescrire une contraception quelques semaines plus tôt. « Je n'ai pas su lui parler. » « Tu as peut-être trop parlé, » répond la conseillère. « Tu lui as demandé depuis quand elle avait des relations sexuelles. Elle ne pouvait pas te répondre. C'était des relations imposées par un membre de sa famille. » Tout le monde ment, c'est entre guillemets, les médecins en premier.
Juste sur cet exemple-là, oui, puisque oui. je l'ai déjà dit,
s'arrête quand même, ouais.
j'ai vécu ça, effectivement, quand j'avais demandé la pilule, le côté intrusif, mais il y a un truc aussi, c'est le fait que c'est un homme, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui, je t'en avais parlé aussi, le fait de pas pouvoir choisir son médecin, par exemple, quand tu consultes à l'hôpital, parce que t'as pas de sous, donc tu peux pas choisir ton médecin, tu peux pas choisir un gynécologue femme, par exemple, enfin, une gynécologue. Et c'est il y a beaucoup de femmes que ça embête énormément. Moi, la première, ça m'embête énormément. Et c'est une des, du point de vue d'une société de classe, quoi. Ça fait partie des choses que t'as pas le choix quand t'as pas de fric. Et que c'est pas normal. Parce que, par exemple, se confier sur sa vie sexuelle ou même sur des viols dont on serait victime à une femme et se confier à un homme, c'est pas la même chose. Donc, le truc, c'est que je suppose que si elle s'est retrouvée face à un médecin homme, c'est qu'elle pouvait pas choisir. Parce que très rares sont les femmes qui meurent d'envie, surtout des très jeunes femmes, qui meurent d'envie de raconter ce qui leur arrive sexuellement à un homme, quoi. Toi, cette idée, ce serait un médecin, donc il est neutre. Toi, tu le ressens pas comme ça, c'est un homme, c'est tout.
Oui, puis dans ce cas de situation, tu as en plus... Là, tu portes quelque chose qui ressemble à de la honte.
Oui, voilà. Et puis, c'est toujours plus facile. Enfin, c'est quand même un truc qui est bête comme chou, mais enfin, tout le monde le sait, quoi. Les femmes se confient plus facilement, surtout une très jeune femme comme ça. Oui. Elle va se confier, que ça soit volontaire ou pas, elle va se confier plus facilement à une femme. Un homme, c'est extrêmement embarrassant d'avoir à parler de sa vie sexuelle à un homme, quoi. Je veux dire, c'est... Et on dirait que c'est pas quelque chose que même l'auteur a eu l'air d'envisager, que cet aspect-là pouvait avoir de l'importance dans cette histoire.
Oui, dans cet exemple-là, oui. Mm. L'une des premières obligations morales d'un soignant consiste à tenir le patient informé de son état à tout moment, sans jamais mentir sur sa maladie même si elle est très grave et le menace à court ou à long terme. Dans bien des pays développés, c'est une attitude courante chez les professionnels, acceptée par tous et toujours attendue par les patients. Je répète deux fois la même phrase. Voilà, ça fait partie du métier, donc tenir le patient informé de son état à tout moment. Lorsque je travaillais à la revue Prescrire, écrit l'auteur, au cours des années 80, je me rappelle avoir eu une discussion avec l'un des rédacteurs, médecin généraliste lui aussi, à propos de l'annonce du diagnostic de sclérose en plaques. Les premiers symptômes de cette maladie, qui évolue par poussées successives, sont parfois très fugaces et il n'est pas toujours facile de l'identifier à coup sûr. C'était d'autant plus problématique qu'il s'agissait alors, et encore aujourd'hui, d'une maladie pour laquelle il n'existe aucun traitement susceptible de la guérir ou d'arrêter son évolution. Celle-ci est par ailleurs très variable et imprévisible d'une personne à une autre. Certains patients sont peu gênés et restent longtemps valides, d'autres se retrouvent rapidement très handicapés. Mon interlocuteur était d'avis que, en cas de première poussée de sclérose en plaques, il ne fallait pas donner le diagnostic à la personne concernée. Il fondait son opinion sur la conviction qu'une telle annonce serait source pour une personne désarmée d'inquiétudes injustifiées. Les poussées pouvaient rester espacées. D'un sentiment d'impuissance, il n'y avait pas de traitement. De désespoir, le diagnostic pouvait apparaître comme une condamnation, etc. Cette position m'a mis très mal à l'aise. D'un côté, j'étais un jeune médecin bienveillant et je pouvais comprendre la décision de ne pas pourrir la vie d'une patiente, si c'est une maladie qui touche plus souvent les femmes, en lui annonçant une nouvelle dont elle ne saurait que faire sinon se ronger les sangs. D'un autre côté, je trouvais indéfendable de cacher au premier intéressé une vérité qui le concerne. Ne pas savoir, c'est rester dans l'impuissance. Savoir, c'est accéder aux possibilités de prendre des décisions. Et il y a toujours des décisions à prendre. Quelques années plus tard, S, un médecin, un ami américain, très proche, m'a appris qu'il était atteint de sclérose en plaques. Nous avions le même âge, une quarantaine d'années à l'époque, et je pouvais tout à fait m'identifier à sa situation. Quand S me raconta la manière dont le diagnostic lui avait été annoncé, ce fut avec une perspective très différente de celle de mon confrère français. Dès la première poussée, le médecin de S avait évoqué plusieurs diagnostics possibles, parmi lesquels la sclérose en plaques semblait le candidat le plus probable. Quelque temps plus tard, il le lui avait confirmé de vive voix au cours d'une consultation qui avait permis à S ainsi qu'à sa compagne de poser toutes les questions qu'il voulait. S en avait retenu essentiellement trois choses, que l'évolution de sa maladie était imprévisible, que les traitements des poussées n'étaient pas toujours efficaces, mais pouvaient soulager ses symptômes, que son médecin était à sa disposition pour lui répondre et le recevoir à tout moment. Mon ami conclut « C'est un sale coup, mais au moins je me sens soutenu, ça m'a permis d'ajuster mes projets. » Comme je lui demandais lesquels, il me répondit « J'avais prévu d'acheter une maison. » Si je dois me retrouver en fauteuil roulant, je vais opter pour une maison de plein pied. Ce qui m'a le plus frappé dans le récit de S, c'est que jamais le médecin n'avait présumé qu'il ne saurait pas faire face. Il lui avait parlé de manière à la fois factuelle et encourageante. Il l'avait mis en contact avec une association de patients souffrant de sepsis, sclérose en plaques, et se tenait à ses côtés. Plus tard, on avait proposé à mon ami de participer à l'expérimentation d'un médicament susceptible d'agir sur l'évolution des poussées. On lui avait expliqué clairement qu'il s'agissait d'un essai en double aveugle, ce qui voulait dire qu'il recevrait peut-être un placebo et non le médicament actif, et que les effets secondaires pouvaient être marqués, ce qui signifiait qu'il souffrirait peut-être plus du traitement qu'il n'en tirerait bénéfice. Il avait pesé le pour et le contre et il avait décidé de ne pas s'enrôler dans l'essai. Son médecin n'en avait pas moins continué à s'occuper de lui avec le même soin. Ces deux histoires pour...
Et juste sur la sclérose en plaques, tu te doutes peut-être de qui je vais parler, non ?
Oui,
oui, puisque tout à l'heure tu vas passer une musique de Matt Contour, de Courge, son groupe. Oui. C'est un dessinateur anarcho-punk qui est absolument génial comme dessinateur. Et j'ai souvent vanté une de ses BD, puisque ses BD sont toujours autobiographiques. Et il est atteint de sclérose en plaques. Et dans la BD qui est à Publico, d'ailleurs, Sclérose en plaques, il explique comment, justement, il a vécu le diagnostic de sclérose en plaques, parce que ça faisait déjà très longtemps qu'il avait, en fait, des symptômes qui étaient inexpliqués. Et où les médecins lui disaient, c'est parce que comme il aime bien danser en secouant beaucoup la tête, ça devait être pour ça qu'il avait des problèmes comme ça, quoi.
Ah oui, tu vois, oui.
Headbanger. Ouais. D'une part, du coup, le fait de lui expliquer, mais d'autre part, ça lui a fait aussi modifier un peu son hygiène, enfin un peu beaucoup d'ailleurs, son hygiène de vie, et puis essayer effectivement des traitements. Et puis bon, le fait de savoir ce qu'il en était quelque chose qui était important. Ça lui a permis d'en parler aussi avec d'autres personnes de son entourage il a rencontré des gens qui étaient également atteints, avec qui il pouvait échanger, et il se rendait compte que si il y avait des choses qui quand même un peu amélioraient ses souffrances, parce que c'est assez douloureux, enfin pour lui, hein, en tout cas, mais c'était pas aussi dramatique qu'il le craignait, puisque par exemple il avait peur de plus pouvoir servir de ses mains, comme il était à la fois musicien et dessinateur, et c'est pas le cas. Il avait peur de plus avoir de vie sexuelle, et il explique dans ses BD que c'est pas le cas non plus, et il est pas paralysé non plus, mais quand il souffre, bon, il faut vraiment mettre le potard, enfin il souffre vraiment quand même beaucoup, et il recherche donc tout ce qu'il peut, enfin des choses qui peuvent un peu le soulager, mais c'est surtout de pas aggraver. C'est-à-dire que par exemple il s'est rendu compte que s'il se bourrait la gueule, ou que si enfin il y a des trucs comme ça, des substances comme ça, ou fait de mal manger, était quelque chose où il avait une poussée après, quoi. Donc c'est vraiment mieux d'avoir été diagnostiqué, et en effet il a fait tellement face que il fait des BD, enfin maintenant les BD autobiographiques qu'il fait, il est toujours fait, même s'il parle pas que de ça, il est toujours fait allusion à sa sclérose en plaques et comment il gère ça, etc., puisque ça fait effectivement partie de sa vie, et ça ne l'empêche pas du tout d'avoir une vie sentimentale, d'être très actif d'un point de vue artistique, etc. Donc voilà quoi, je pense à ça, et au fait que avant que ça lui soit diagnostiqué, c'était surtout des médecins qui étaient, je crois pas que c'était exprès, je pense que c'était juste que ils étaient pas compétents, qu'ils avaient pas pensé à cette possibilité là. Mais il s'est jamais plaint de savoir la vérité, quoi. Au contraire.
Ouais.
Peut-être qu'on pourrait passer, puisqu'on vient de parler de Matt Contour, on pourrait peut-être faire une pause en passant une musique de Matt Contour. Ah, t'as encore un petit truc.
Ouais, c'est juste la conclusion de
la
cette,
conclusion du
de cette expérience où il y avait donc deux versions. La version du médecin qui préférait rien dire au patient, et puis celle du médecin qui l'informait. Donc, ces deux histoires pour illustrer une notion qui me semble fondamentale. Si soigner, c'est aider l'autre à s'affranchir au mieux de la maladie, ou au moins à lui tenir face, à lui faire face, alors tout travestissement de la vérité, même pour des raisons entre guillemets bienveillantes, n'est pas seulement immoral, mais aussi incompatible avec le soin. Les médecins qui cachent aux patients des informations qui les concernent violent le code de déontologie purement et simplement. C'est un comportement paternaliste qui entrave gravement la liberté des patients de décider en connaissance de cause.
Alors, donc tu vas nous passer une musique de Matt Contour,
de Courge.
Ouais. course, on ne peut pas appeler ça le groupe de Matt Cote. Enfin, je crois que récemment, il a embauché d'autres musiciens, mais la plupart du temps, au début, il était tout seul à faire ce groupe. C'est vraiment quelqu'un de très créatif. Donc, je vous recommande vivement, entre autres BD autobiographique de Matt Cote, Sclérose en plaques, à la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot. C'est bon ? Alors, c'était donc, tu me disais que tu avais eu la chance d'assister, parce qu'il est tout seul au début, et puis après, il s'est mis à inviter d'autres gens pour faire des morceaux.
Oui,
et donc, tu as eu la chance d'assister.
Oui, c'est pas, voilà, c'est parce que certaines années, j'allais faire les vendanges dans les Pyrénées-Orientales, puis je revenais des vendanges après, je repassais par Montpellier. Et donc, c'est là qu'il est. À Montpellier, dans le quartier de Figuerolles, que je rendais visite à Marc Conture et à ses copains. Et voilà, et donc, j'ai pu assister à une espèce de répétition, je ne sais pas comment on pourrait dire, je ne sais pas si ils enregistraient ou pas à ce moment-là, mais en tout cas...
C'était sérieux, c'était, j'imagine, très sérieux.
disons que voilà, il y avait des gens, hein, des garçons et des filles qui étaient avec chacun son instrument, et ça improvisait, voilà. Puis à un moment, on à force de le faire, eh bien, ça rendait bien. Alors voilà, il commençait à surfer un peu sur ce truc-là. Puis Matt se mettait à chanter et tout ça.
Voilà. Donc tu continues sur le.
C'est toujours l'émission, oui, parce que c'est toujours l'émission L'Entonnoir sur Radio Libertaire. Et L'Entonnoir, c'est l'émission critique de la psychiatrie. En particulier, mais aussi du pouvoir médical en général, et plus généralement aussi du monde qui va avec tout ça, avec tout ça. Alors, donc Martin Winkler, Les Brutes en Blanc, écrit « Je conseille à tous les étudiants en médecine de regarder attentivement la première saison de la série Dr House ». En VO sous-titré, tant la VF est calamiteuse et truffée d'idiotie. Dès le premier épisode, le personnage principal déclare « Tout le monde ment ». Et il précise « À commencer par les médecins ». Ce qui apparaît clairement au fil des épisodes, c'est que les patients mentent pour se protéger des jugements des médecins ou des réactions de leur entourage. Les médecins, quand ils mentent, le font tantôt pour, entre guillemets, « ménager le patient », tantôt pour se ménager et toujours pour garder le contrôle de la situation. Autrement dit, pour conserver le pouvoir. Quand je me suis installé, je ne regardais pas Dr House, mais je me suis peu à peu rendu compte que certains patients mentaient pour me manipuler. Ces patients-là sont très peu nombreux, je n'en ai croisé que 4 ou 5 en 25 ans de pratique. Et très mal dans leur tête, mais ils me pompaient beaucoup d'énergie. Ils sont dotés d'une personnalité manipulatrice et la maladie leur donne un avantage redoutable sur leurs soignants. Ils peuvent toujours se poser en victime. Ils ont de plus l'intelligence de s'adresser aux médecins les plus jeunes et les plus inexpérimentés. Car beaucoup de jeunes praticiens sont bienveillants et animés d'un désir de sauver le monde, mais aussi très crédules et très influençables. J'ai eu de la chance. Des collègues médecins et psychologues ainsi que la pratique des groupes Balint m'ont aidé à comprendre ce qui, dans les traits de
c'est
ma
quoi,
personnalité...
C'est quoi,
Balint?
Ils ne disent pas?
Ils ne disent pas. J'en ai déjà entendu parler, mais je ne saurais pas te dire ce que c'est. Peut-être à la prochaine émission, je préciserai.
Les groupes Balint.
La pratique des groupes Balint m'ont aidé à comprendre ce qui me rendait sensible aux arguments des patients dans les traits de ma personnalité et me poussait de mon côté à me méfier et à douter de ce que le patient disait pour me protéger. Après plusieurs années de participation à un groupe Balint, j'ai fini par comprendre que pour un soignant, il n'est pas essentiel de savoir tout sur un patient. Chacun a des secrets à préserver. Pour soigner, il n'est pas indispensable de les connaître. Parfois, il suffit de subodorer que, dans l'histoire d'un patient, il y a une zone sensible et de garder son existence à l'esprit afin d'éviter de s'y engouffrer comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. En gardant une distance respectueuse, on signifie au patient qu'on ne cherche pas à prendre le pouvoir. Madame X, qui m'amenait régulièrement ses deux enfants en consultation, n'évoquait jamais sa situation conjugale. Lorsque j'ai voulu en savoir plus sur leur père et sur le mode de vie de la famille, elle m'avait répondu qu'elle préférait ne pas en parler. J'avais respecté son souhait, et bien m'en apprit. Au fil des mois, j'ai reçu tous les membres de la famille et j'ai découvert qu'ils formaient une tribu à l'équilibre très complexe et aux relations souvent très douloureuses pour plusieurs d'entre eux. Certains aspects des relations entre les adultes de la famille me choquaient profondément, mais j'ai vite compris que, parce que je ne portais aucun jugement, chacun d'eux pouvait venir me demander de l'aide. Si je m'étais risqué à vouloir, entre guillemets, « réparer » la famille de Madame X, ou tout simplement me mêler de ses affaires, elle m'aurait fui et elle aurait bien fait. Au lieu de quoi, alors même que je ne posais aucune question, chacun savait m'apporter, le moment venu, l'information qu'il me fallait pour comprendre, et seulement celle-là. Au bout de 6 ou 8 ans d'exercice, je ne me demandais plus du tout si un patient ou une patiente me disait la vérité ou non, car je ne me focalisais plus sur les faits, mais sur les émotions et les sensations. La pratique du Balint m'avait appris, en outre, que derrière une déclaration qui me semblait bizarre, il y en avait peut-être une autre que le patient ne pouvait exprimer par peur, par honte, par chagrin, par colère ou en raison de sentiments encore plus confus. L'exemple le plus éclairant, je l'ai trouvé dans une phrase qu'on entend fréquemment en consultation de contraception. « Docteur, je ne supporte plus ma pilule. » Au début, bien entendu, je réagissais de manière un peu automatique en disant « Eh bien, je vais vous en prescrire une autre. » Certaines patientes repartaient avec une ordonnance et je les voyais revenir quelques semaines plus tard pour la même raison. D'autres secouaient la tête et je sentais que ça n'était pas la bonne réponse parce que leur demande en cachait une autre. Ce qu'elle voulait dire, c'était plutôt « Ça fait 10 ans que je la prends et j'aimerais me sentir à nouveau moi-même quand je ne la prenais pas. » Ou bien « J'en ai marre de prendre la pilule chaque soir avant d'aller me coucher avec un homme que je n'aime plus. » Ou encore « Je ne veux plus de contraception, je veux être enceinte, mais ça n'est pas possible pour telle ou telle raison. » Ou même « J'ai peur d'oublier ma pilule parce que depuis quelques mois, j'ai un amant et je ne veux pas me retrouver enceinte sans savoir de qui sera l'enfant. » Bien entendu, plus le problème était compliqué et sensible, plus il fallait de patience et de délicatesse pour que la patiente parvienne à le formuler. À mesure que le temps passait, j'ai appris à écouter plus attentivement. Et j'ai vu, peu à peu, les demandes prétextes disparaître et un nombre de plus en plus grand de patients énoncer d'emblée, en toute confiance, les motifs qui les amenaient à consulter, même quand ils étaient très difficiles à exprimer. Les médecins qui ne prennent pas la peine d'écouter ne savent pas à quel point il est gratifiant de le faire. Mais il y a pire que de n'être pas écouté, c'est voir le médecin balayer d'un revers de main ce qu'on lui a confié. Et ça fait l'objet du sous-chapitre suivant, intitulé « Ceux dans votre tête ». Contrairement à ce que beaucoup de praticiens français imaginent, la confiance du patient n'est pas un dû qu'ils sont en droit d'attendre. Elle est d'abord un risque que prend le patient en s'adressant à un étranger. Ce risque est certes calculé. Tout patient évalue inconsciemment le médecin qu'il a en face de lui, à travers son comportement, ses réactions, ses attitudes. Et en théorie, chacun peut librement décider de ne plus consulter un médecin dont il n'est pas satisfait. Mais cette liberté est entravée par d'autres considérations. La peur de la maladie, l'aura du médecin, sa réputation et l'ascendant qu'il a sur le patient, la durée de la relation, les pressions de l'entourage, l'impossibilité de consulter un autre praticien. La plupart des patients font confiance au médecin, mais faire confiance, ce n'est pas s'exposer tout de suite entièrement. La confiance du patient s'installe peu à peu, à la mesure du respect qu'on lui porte. Or, ce respect n'est pas du tout le même selon le pays où l'on vit. Dans les pays anglo-saxons, les médecins acceptent parfaitement qu'un patient prenne l'avis d'un autre praticien. En France, beaucoup de médecins se voient comme une figure d'autorité exclusive. Quand on fait appel à moi, c'est moi qu'il faut écouter et personne d'autre. Cette attente de soumission implicite est l'un des traits les plus saillants de la culture médicale hexagonale. Elle a longtemps fait partie de la manière dont les enseignants formaient les étudiants en médecine. C'est comme ça et pas autrement. Ce n'est plus toujours le cas, mais il reste malheureusement beaucoup d'enseignants en médecine qui se comportent ainsi. Et il faut avoir beaucoup de personnalité et d'assurance pour braver les injonctions de ses maîtres. Or, aujourd'hui, beaucoup de patients attendent des médecins autre chose qu'une posture paternaliste et des décisions unilatérales. Quand ils se présentent dans un cabinet médical, ce n'est pas pour soumettre, mais pour échanger, questionner, s'informer, envisager toutes les options. Face à un médecin dont l'attitude est fermée, paternaliste, archaïque, la plupart des patients se sentent très mal parce que le refus de les prendre au sérieux équivaut à nier leur sincérité. Prenez deux effets secondaires extrêmement fréquents des contraceptions hormonales, la prise de poids et la diminution de la libido, quand ce n'est pas la disparition. Quand, comme je l'ai mentionné, page 33, les contraceptions hormonales, pilules, implants et dans une certaine mesure le SIU ou stérilet hormonal, endorment l'ovulation en simulant une grossesse en cours. Pour certaines utilisatrices, ça peut tout à fait favoriser une prise de poids, soit en augmentant légèrement l'appétit, soit en accentuant le stockage des calories, et assoupir la libido, comme le décrivent un certain nombre de femmes enceintes. Bien sûr, ces effets ne concernent pas toutes les utilisatrices en raison du grand nombre de méthodes existantes et de la sensibilité aux hormones, variable d'une personne à une autre. Mais celles qui sont concernées par ces effets secondaires en souffrent beaucoup. Nombre de médecins accueillent leurs plaintes avec incrédulité, mais ils ne leur décochent pas des complémentaires méprisants. Des commentaires méprisants et déplacés.
Vous allez voir le docteur.
Oui. Madame F vint me voir un jour en me racontant qu'à la suite de sa troisième grossesse, le gynécologue avait refusé de lui poser de nouveau un DIU au cuivre, méthode qu'elle utilisait depuis des années, et lui avait imposé un SIU hormonal. En quelques mois, elle avait pris 10 kilos et avait perdu tout désir d'avoir des relations sexuelles. Au bout de 6 mois, elle était allée demander à son gynécologue de lui retirer le SIU. Il avait refusé tout net. « Pour le poids, vous n'avez qu'à faire attention. Et puis, cette histoire de libido, c'est dans votre tête. Vous êtes sûr que ça va bien dans votre couple ?» Elle avait décidé de changer de praticien et, comme le centre de planification donnait des rendez-vous dans la semaine, elle venait me demander de lui enlever son SIU. « Je suis tout de même capable de faire la différence entre l'amour et le désir », me dit-elle avec un mélange de colère et de désespoir. « Je n'ai pas de désir, mais j'aime mon mari. Mais une fois que vous allez me retirer cette cochonnerie, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne veux pas être enceinte encore une fois. » Eh bien, si vous voulez, je vous retire le SIU et je vous pose un DIU au cuivre. Vous voulez dire quand j'aurai mes prochaines règles ? Non, aujourd'hui. Comme ça, lorsque votre libido sera réveillé, vous serez protégé. Mais mon gynéco m'a dit que si j'insistais vraiment, il me l'enlèverait, mais que de toute manière, avant de me mettre un stérilet, il me fallait attendre. Moi, je ne voulais pas prendre la pilule et je ne voulais pas non plus me retrouver sans contraception. Non, changer de DIU, ça se fait en une fois. Quelques semaines plus tard, Madame F m'appelle pour me demander quand elle doit venir en consultation de contrôle. Je lui réponds que si elle va bien, elle n'a pas besoin de venir. Comment se sent-elle ? Très bien. Elle a perdu du poids et retrouvé sa libido, son mari et sa joie de vivre. Mais elle est très en colère contre le médecin qui l'a traitée de folle et en plus lui a menti.
Je voulais dire un truc par rapport à ça, en particulier à l'idée d'être enceinte et les positions. Encore une fois, les médecins sont pas neutres idéologiquement forcément, mais il y a deux choses comme ça qui m'avaient troublée. À un moment, je m'occupais du courrier de Radio Libertaire et complètement par hasard, je comprends vraiment pas comment ça atterrissait là, mais je recevais tout le courrier que s'échangeaient des gens d'un truc qui devait s'appeler l'Institut Saint-Joseph et qui sont des anti-avortements, radicaux, hein, vraiment, et qui d'ailleurs étaient en bisbille les uns avec les autres des fois parce que déjà ils pouvaient pas souffrir ceux qui sont devant l'hôpital Tenon parce qu'ils trouvaient que c'était des gugus. Et justement, à un moment donné, ils disaient, mais nous on n'est pas sur ce côté comme ça clownesque, on est sur du lobbying dans la mesure où il y a des médecins qui sont de notre bord. Et que c'est là-dessus qu'il faut jouer, parce qu'ils peuvent avoir justement une influence très forte sur les patients. Évidemment, il faut être un petit peu prudent. Mais je me suis rappelé un truc qui est arrivé à une dame que je connaissais. Elle avait demandé un RE, enfin tu sais, une pilule du lendemain, quoi. Et franchement, le bébé, fallait l'appeler Maïliné, frais comme un gardon. MacGyver, hein, on lui a dit, il faut l'appeler comme ça. Déjà, il avait la capote de son mari s'était percée. Après, elle prend une pilule du lendemain et elle s'est demandé si le médecin, qu'elle avait trouvé un peu chelou et tout quand même, lui avait pas donné une pastille Valda, parce qu'elle l'a pris comme il faut. Et après, elle voyait qu'elle avait toujours pas ses règles. Elle retourne, puis elle se sentait pas bien, quoi. Donc elle retourne voir la même gynéco, qui dit non, vous êtes pas enceinte, tout va bien. Et puis évidemment, jusqu'au moment où il était trop tard pour avorter, quoi. Comme en plus elle a eu la varicelle en étant enceinte. Enfin bon, vraiment, franchement, le bébé, il voulait vraiment venir. Hein. Ouais. Mais bon, mais à part ça, on avait fait des recherches à ce moment-là, et en fait, il s'est bel et bien trouvé que la gynéco en question était quelqu'un qui était une militante anti-avortement. Donc, sans avoir mauvais esprit, effectivement, je me demande si elle n'a pas eu un tic-tac à la place de, oui, à la place du RU, quoi. Mmh. Mais c'est un truc, sans aller jusqu'à des trucs comme ça, mais on peut quand même se demander la pression que tu peux avoir. J'ai raconté déjà quand j'étais jeune fille et que le médecin m'avait dit, vous savez que ça vous donnait le cancer, avez-vous pensé à la méthode Ogino, enfin des trucs qui effectivement fonctionnent pas, et puis me faire un peu honte, enfin vous êtes comme pas un peu, enfin faut plus avoir de rapport sexuel, faut, enfin tu vois, et même sur le côté il y a des médecins opposés, vraiment opposés à l'avortement, et faut quand même en être, enfin quand on voit que le médecin à qui on s'adresse pour ça à une position pas très nette, je dis ça, c'est pas, il s'agit pas d'être parano, mais quand même éventuellement, quand c'est vraiment pas très net, d'envisager cette éventualité. Encore une fois, faut se rappeler que les médecins, on les voit comme des créatures neutres, mais elles le sont idéologiquement, elles le sont pas du tout forcément. Ouais, faut se rappeler que le professeur Lejeune, c'est un scientifique, mais enfin, je crois qu'à la base, celui qui a fondé SOS Tout Petit, effectivement, c'est un médecin. Et je crois pas qu'il se vantait, le mec de l'Institut Saint-Joseph, en disant on a des politiques et on a des politiciens dans notre manche, c'est quand même plus malin que d'aller faire les andouilles devant l'hôpital Tenon, quoi. Voilà.
Alors, poursuite de la lecture de Des Brutes en Blanc de Martin Winkler. Le « c'est dans votre tête que trop de praticiens des deux sexes décochent aux patients invoquant un symptôme non répertorié » est l'une des expressions les plus manifestes de l'obscurantisme médical français. D'abord parce qu'il disqualifie ce que ressent la personne en laissant entendre que ces symptômes n'ont pas de réalité. Or, un symptôme est toujours subjectif, un mal de tête ou de ventre, un vertige, des brûlures d'estomac, un lumbago, le sentiment d'oppression de l'infarctus, la douleur fantôme d'un membre amputé ne peuvent être ni observés ni mesurés, car seul le patient les perçoit. Ça ne veut pas dire qu'il les imagine. Rejeter la réalité d'un symptôme est une première violence qui laisse entendre que le patient se trompe sur ses propres perceptions ou pire, qu'il ment délibérément. La seconde violence consiste à refuser de chercher une solution. Dans le cas de Madame F, son médecin était d'autant plus impardonnable que la solution m'avait pris 5 minutes. La troisième violence avait consisté à lui mentir en lui disant qu'elle devait attendre pour se faire poser le DIU qu'elle demandait. Pourquoi lui mentir ? Pour une raison vénale, inexcusable, cela obligeait Madame F à payer 2 consultations au lieu d'une. Et ce gynécologue-là n'était pas le seul à le faire. Nombre de patientes qui venaient au centre d'orthogénie en dépannage étaient très surprises de m'entendre dire qu'elles pouvaient garder leur DIU au cuivre 10 ans, qu'il n'était pas utile de venir chaque année en consultation de contrôle, et que si elles allaient bien, elles n'avaient pas besoin de médecin. Et beaucoup me disaient que leur gynécologue leur faisait changer de DIU au bout de 3 ans en 2 consultations, l'une pour retirer le premier, l'autre pour insérer le second. Ce comportement vénal, indécent de la part de professionnels qui ne sont pas obligés de faire revenir des patients tous les 4 matins pour gagner leur vie, provoque des catastrophes. Je me souviens en particulier d'avoir vu le même mois au centre d'IVG deux femmes d'une quarantaine d'années qui m'avaient raconté la même histoire. Au cours d'une consultation annuelle, leur gynécologue, elles avaient le même, leur avait retiré leur DIU au cuivre sans les prévenir, en disant qu'il fallait le changer. Il leur en avait prescrit un autre à se faire poser après leur prochaine règle. Et en attendant, avait-elle demandé, en attendant, vous n'avez qu'à faire attention, de toute manière, à votre âge, vous ne risquez plus grand-chose. Fin de citation. Toutes deux s'étaient retrouvées enceintes, et toutes deux étaient partagées entre la colère d'avoir été flouées ainsi et le sentiment de culpabilité. C'était sûrement leur faute, puisqu'elles n'avaient pas fait assez attention. Il en va ainsi des maltraitants. Ils parviennent à convaincre leurs victimes qu'elles sont seules responsables de leur sort. Ils culpabilisent au moyen de petites phrases humiliantes comme « Vu votre âge, une grossesse serait surprenante » ou encore « Avec votre surpoids, vous ne serez jamais enceinte ». Le même gynécologue, comme plusieurs de ses confrères du département, recommandait d'arrêter la pilule un mois par an pour s'assurer que tout fonctionne bien. Au mois d'août de préférence, quand il prenait des vacances. On constatait les effets nocifs de ces recommandations quand elle passait la porte du centre d'IVG en septembre.
Ouais. Voilà. Mais d'ailleurs, je pense à un truc, parce que je pense là par rapport à ceux qui sont anti-avortement. Et ma mère m'avait raconté, mais j'ai vu d'autres, dans des livres, même d'autres témoignages comme ça, à l'époque où peut-être c'était même encore pire par rapport à toute la position qu'il pouvait y avoir autour de l'avortement, et les médecins qui donc sont pas forcément du tout neutres sur cette question-là. Ma mère a fait une fausse couche et... c'est possible qu'elle ait fait une tentative d'avortement en réalité, mais enfin bon, bref, le médecin qu'elle est allée voir, a dit qu'elle est tombée de vélo, quoi. Mais lui, il était convaincu qu'elle avait fait une tentative d'avortement. Donc il lui a fait, et j'ai entendu d'autres récits comme ça, de l'époque, il lui a fait un curetage à vif pour la punir, en lui disant, vous avez voulu vous amuser maintenant, enfin, en lui disant ça, maintenant vous allez payer. Et c'est insupportable, pour ceux qui ne le sauraient pas. Un curetage, donc ça consiste à retirer les bouts d'embryons, quoi. Et c'est avec une espèce d'un truc qui ressemble un peu à une cuillère et qui a des bords, c'est tout simplement des rasoirs. Donc quand on fait ça à vif sur les organes génitaux, vous pouvez imaginer un peu la douleur que ça représente, quoi. Et il y a vraiment une. Il y a vraiment quelque chose comme ça qu'il faut. Enfin, qu'il faut faire attention. J'imagine que dans des pays, même aux États-Unis, où il y a plus d'anti-avortement, c'est quelque chose qui est pas évident. Hein. Moi aussi, il faut que j'aille voir le médecin.
oui, il y a une sorte de volonté de rendre une sorte de justice morale par rapport à...
C'est une idéologie. Je vois pas pourquoi il serait exempt d'idéologie. En effet, on sait bien quand même que l'extrême droite, elle a pu progresser quand même. Et l'extrême droite, ça va quand même assez bien avec le fait d'être contre l'avortement, quoi.
Oui, tout à fait.
Et en effet, il n'y a pas que les guignols devant l'hôpital Tenon. Il y a malheureusement des gens qui sont comme ça. Bah surtout effectivement, comme ce que j'avais lu dans le courrier en question. Moi, ça m'avait fait assez peur de me dire, effectivement, des médecins, mais qui seraient assez habiles pour pas le dire. Mais n'empêche que, par exemple, celui qui a... C'était une femme, d'ailleurs, qui avait donné... Enfin, puis dont on s'est rendu compte qu'elle était, effectivement, une militante d'extrême droite, comme par hasard. Mais c'est quand même un peu bizarre que le RE, normalement, ça marche pas mal. Et surtout qu'elle se soit pas rendue compte, alors qu'elle disait, j'ai pas mes règles, c'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'elle lui a affirmé qu'elle était pas enceinte? Donc, moi, je dis, si jamais il vous arrive un truc comme ça, faites une petite recherche quand même sur le médecin en question. Et puis, si vous avez des symptômes malgré la pilule du lendemain, allez prendre un deuxième avis, quoi.
Voilà.
C'est trop important, hein. C'est quand même... Mais Mais oui, voilà, c'est quelque chose, tout ce qui tourne autour de la sexualité, bah, en effet, la sexualité des jeunes filles qui sont beaucoup trop jeunes, croyez pas que vous êtes un peu jeune pour aller pour baiser, etc. Bah, de quoi je mets le doigt de ton cul, enfin bon. Mais voilà, quoi, tu peux avoir quand même une grosse... tu peux quand même avoir une grosse pression, et c'est pas toujours, surtout pour une jeune fille en particulier, facile d'y résister. Ouais. Et puis c'est pas le droit à l'avortement, c'est juste pour dire, c'est pas de la tarte en réalité, parce que en théorie il y a le droit à l'avortement, mais pour de vrai, c'est des fois assez compliqué de trouver un médecin qui accepte de faire un avortement. Ouais. Enfin, genre tu peux le faire, mais il faut attendre 2 ans. Bon.
En conclusion, je répéterai la phrase qui avait été dite juste pendant la lecture d'aujourd'hui. C'est dans les pays anglo-saxons, les médecins acceptent parfaitement qu'un patient prenne l'avis d'un autre praticien. En France, beaucoup de médecins se voient comme une figure d'autorité exclusive. Quand on fait appel à moi, c'est moi qu'il faut écouter et personne d'autre. Donc, méfiance aussi de par rapport à ça. Mmh.
Bon,
ben... Eh bien voilà, ainsi se termine l'émission. Merci Sylvie.
Merci tout le monde.
Et la semaine prochaine, on sera avec André Bitton du CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie.
Tu connais le thème déjà ?
Alors, il y aura de l'actualité sur des un cas, voilà... Je ne peux pas le préciser maintenant, je n'ai pas assez je ne suis pas assez documenté, mais
je peux juste faire une annonce comme ça, c'est que Publico, la librairie Publico 145 rue Amelot, la librairie du monde libertaire, elle est ouverte tout le mois d'août cette année.
Ah, ouais. Bonne nouvelle. Bon, nous vous disons donc au revoir, à la semaine prochaine.
Intelligent.